Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat confiné, chacun chez soi, mais tous rassemblés grâce au travail des techniciens de Radio France qui, eux, sont à la maison de la radio. À l'ordre du jour ce soir, laisserons-nous à la nature la place qu'elle a reprise. Dès le début du confinement, dans les grandes métropoles, chacun a pu noter que celle-ci n'était pas peuplée que d'humains. Le chant des oiseaux, habituellement couvert par le son des automobiles, la vue d'animaux inhabituels dans nos villes nous ont rappelé qu'en lisière des cités, et parfois même en leur cœur, une vie dite sauvage pouvait y prospérer. Que restera-t-il de cette surprise, voire de cet émerveillement, dans 5 jours, une fois le déconfinement programmé en France, par exemple? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités. Avec Didier Sicard, il est médecin, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, professeur émérite à l'Université de Paris et membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur Olaos. Cela a une importance pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nicolas Gilsoul est également avec nous. Il est architecte et professeur d'urbanisme, d'architecture et du paysage. Et il est auteur d'un livre qui s'intitule « Bêtes de ville ». Paru l'année dernière chez Fayard. Et enfin avec nous également, Vinciane Després, elle est philosophe, professeure à l'Université de Liège. Elle a écrit « Habiter en oiseau » chez Actes Sud en 2019, mais elle est également l'autrice d'un texte qu'elle nous a fourni pour la conversation mondiale qui permettait de réfléchir justement à ces humains et à ces oiseaux qui pourraient vivre ensemble. Bonsoir Vinciane Després, merci d'être avec nous. Ce merle, je l'ai enregistré dans ma cour à Paris, en plein centre de Paris, alors que je ne l'avais jamais entendu auparavant. Il était couvert par le bruit des voitures habituellement. Et ce merle, eh bien, je le retrouve tous les soirs dans ma cour et je suis très heureux de l'entendre. J'ai l'impression d'avoir vécu une sorte de surprise, voire, je le disais, d'émerveillement vis-à-vis de ce chant des oiseaux dans nos villes. Je ne suis pas le seul, j'imagine, Vinciane Després, vous qui êtes autrice donc de Habiter en oiseau.
Alors non, vous n'êtes pas seul. Et je veux dire, le début du confinement a été une occasion de surprise et d'émerveillement pour pas mal de monde qui découvrait en effet qu'on n'était pas que peuplé d'humains. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que de fait, le fait qu'il y ait du silence, et on entend très bien le silence, on entend juste quelques voix en fond sonore, c'est assez extraordinaire. Que les gens ont pu aussi être peut-être plus attentifs du fait d'être un peu moins stressés, pris par le mouvement, par les mouvements, par l'obligation de se déplacer tout le temps. Et puis aussi, selon certains ornithologues, et plusieurs l'ont affirmé, les merles eux-mêmes ont compris qu'ils pouvaient occuper l'espace sonore, ce qui me faisait dire qu'ils ont un point de vue sur cette pandémie. Ils ont compris qu'ils avaient leur temps de parole et leur temps de silence aussi.
Oui, Nicolas Gilsoul, vous êtes auteur de Bêtes de ville. Ça ne vous surprend pas, vous non plus, vous qui êtes architecte et professeur d'architecture et du paysage, que de voir que nos villes sont effectivement peuplées d'animaux dont on pense qu'ils ne sont pas là, mais qui se cachent habituellement devant le bruit, devant la lumière, devant l'activité humaine.
Oui, oui, bien sûr. Bonsoir. Ils étaient déjà là avant le confinement. C'est juste que là, maintenant, comme nous, on est discrets, eux sont déconfinés et ils s'aventurent plus loin dans la ville. Mais on sait qu'il y a il y a quelques mois, on avait compté 35 000 sangliers dans le cœur de Berlin. Il y a 15 000 coyotes à Chicago. Donc voilà, c'est pas une nouveauté. Simplement, on les voit de la même manière que on voit les livreurs Uber passer à toute allure dans les rues.
Mmh. Didier Sicard, bonsoir, vous êtes médecin, bonsoir, oui. Ancien président du comité consultatif d'éthique, et vous êtes intervenu dans ce débat. On était un peu surpris d'ailleurs de vous entendre sur ces questions-là, parce que vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur Olaos, et cette cohabitation des espèces animales et des hommes dans les villes, dans des villes qui croissent à vitesse très rapide, eh bien ça vous a intéressé en tant que médecin justement?
Ça m'a intéressé, mais le modèle chinois n'est pas forcément un modèle universel, mais les Chinois ont un rapport à l'écologie très détestable, à la mesure où, par exemple, ils construisent des autoroutes entre la Chine du Sud et la Malaisie, à travers des jungles et des forêts primaires, avec un mépris absolu de l'environnement forestier et environnement animal, avec une indifférence totale au changement des moustiques. Ils construisent des barrages sur le Mékong, 60 barrages qui vont complètement changer l'espace des petites villes. Donc il y a une espèce de grande indifférence. Au fond, la Chine considère que le progrès architectural, le progrès urbanisme passe par le gigantisme et avec un mépris absolu de la nature, et peut-être que ça leur retombe dessus. Alors évidemment, le marché de Wuhan est une situation un peu particulière, mais le développement économique de la Chine a fait que ces animaux sauvages qui coûtent très cher, rassemblés en grande quantité dans une population urbaine considérable, a fini par créer le séisme que nous connaissons. Mais ça ne serait pas arrivé forcément dans un autre pays.
Mais tout le monde n'en est pas d'accord, Didier Sicard, tout le monde n'est pas d'accord justement sur cette origine animale du virus. En tout cas, il y a toujours des discussions autour de ces questions-là, et certains disent, bah non, tout compte fait, ce n'est peut-être pas ce réservoir animal du virus qui est à l'origine de cette pandémie.
Oui, mais ça fait partie des fake news qui vont abonder pour deux raisons. La première, c'est que être contaminé par un animal, c'est pas forcément très digne pour l'humain qui préfère être contaminé entre humains à partir d'un virus construit par l'humain. C'est plus noble pour la science. L'autre aspect, c'est que c'est tellement difficile de contrôler le marché des animaux sauvages que c'est un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et par conséquent, c'est une responsabilité infiniment plus grande que de trouver une responsabilité dans un laboratoire. Donc, au fond, c'est une aller voir ailleurs, mais je pense que ça ne change rien à la responsabilité majeure du trafic d'animaux sauvages. D'ailleurs, les autres épidémies ont toujours commencé comme ça. Elles ont toujours commencé à partir des élevages concentrationnaires d'oiseaux et de poulets dans les parcs de Chine. Et puis le SRAS, c'était aussi la poule aux souris. Et donc, c'est une distraction de l'esprit, mais enfin, c'est une impasse. Il est évident que la chaîne de contamination est liée à cette proximité. Mais enfin, faut pas non plus faire du marché de Wuhan une situation universelle et quand même bloquer la relation entre la nature et la ville, qui est une dimension beaucoup plus complexe que ça.
Oui, justement, Nicolas Gitsoud, vous qui êtes architecte et professeur de paysage et d'architecture et d'urbanisme, ces questions de ces villes tentaculaires qui croissent à vitesse grand V et qui se rapprochent dangereusement de lieux qui sont des réservoirs justement de virus, que ça soit en Chine, mais ça peut être aussi en Afrique, c'est une question à envisager au point de vue justement urbanistique, aménagement, au point de vue de l'architecture aussi.
Bien sûr. On a toujours tendance, là, au début du confinement, on a vu pas mal de réactions sur le retour de la nature en ville. Non, en réalité, c'est plutôt la ville qui s'est tellement agrandie de manière tentaculaire et puis parfois très mitée, hein, même chez nous, sans parler de mégalopoles comme Lagos ou de mégalopoles asiatiques. On a des territoires qui sont devenus très grands, très vastes et qui se sont superposés au territoire et au milieu de certaines espèces animales. On en a évacué, on les a liquidés parce que le milieu était trop dur pour eux. Et puis d'autres ont muté et d'autres ont trouvé refuge dans les replis de nos villes. Et c'est de cette proximité-là qu'aujourd'hui c'est sur cette proximité-là et avec cette proximité-là qu'aujourd'hui on va devoir travailler pour repenser nos villes différemment, parce que il n'est pas question de se dire on s'approche de réservoirs dangereux de vie. On est déjà en plein milieu de la biodiversité et elle est en crise. Et c'est parce qu'elle est en crise que on a la porte ouverte à tous ces virus opportunistes. Donc restaurer, c'est l'équilibre, retrouver un équilibre dans cette mosaïque d'écosystèmes naturels et anthropiques qu'est devenue la ville, est une nécessité aujourd'hui, oui.
Vinciane Després, vous dites d'ailleurs, en tant que philosophe, il faudra passer de la nature au milieu, et c'est le terme qu'a utilisé Nicolas Gilsoul. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas penser la nature comme une nature? Est-ce que c'est se placer dans la pensée de Philippe Descola ou de ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire de en finir, en tout cas dans la philosophie occidentale et dans la vision occidentale, avec la séparation entre nature et culture?
Oui, je m'inscris très clairement dans la lignée de Philippe Descola et aussi surtout de Bruno Latour. On va devoir faire un monde commun. Je veux dire, le monde, on le sait, n'est pas fait que d'humains, et quand on l'oublie, ben on voit ce que ça peut produire. Hein. Un virus qui arrive à paralyser l'économie mondiale, ça montre bien que le monde n'était pas fait que d'humains. Et puis pour des questions aussi d'équité et de qualité de vie. Et donc, c'est le terme nature désigne toujours une forme d'extériorité, une forme, et puis on sait quel type de hiérarchie ça conduit, alors que le terme milieu nous rappelle que nous vivons dans des milieux qui sont composés d'autres êtres, et ça permet d'insister sur les interdépendances entre tous les êtres. Et là, je trouve que ça devient intéressant. Vous savez, il y a par exemple des propositions qui ont été faites dans la lignée de Baptiste Morisot, c'est quel type de diplomatie et c'est qui se dit diplomate des interdépendances, ou encore ce texte que Bernadette Binceau de Vincent a écrit tout récemment dans Reporter, et qui dit, ben, nous ne sommes pas en guerre contre le virus, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à être diplomate avec lui, nous allons devoir composer avec lui. Et là, je pense qu'on commence à trouver des manières de vivre et des manières politiques de vivre avec le vivant que la nature excluait. C'est-à-dire, la nature, c'est pas un terme politique, ça peut être un terme mobilisateur, mais c'est pas une façon de commencer à vivre ensemble.
Et cela, effectivement, c'est vu du point de vue des humains, puisque nous en sommes des humains, mais vous dites qu'il faut aussi penser en termes de tous ceux que nous appelions les autres espèces, les animaux, peut-être même ce que nous qualifions d'espèces végétales. Il faut penser autrement, c'est-à-dire que eux aussi, ces animaux, et l'exemple du merle qui nous a permis d'ouvrir cette émission en fait partie, ils sont là, ils sont avec nous, ils pensent aussi, ils réfléchissent aussi. Par exemple, vous dites dans le texte que vous nous avez confié pour la conversation mondiale, bien, il y a une formidable puissance de ces territoires chantés, la façon dont chantent les merles dans les villes désormais et parlent entre eux, échangent entre eux, et bien cela, on pourrait s'en inspirer parce qu'ils sont libérés de l'anthropocacophonie, dites-vous, et on pourrait s'en inspirer nous-mêmes en tant qu'humains.
Alors, c'est pas tellement les copier ou essayer de faire un modèle, parce que ce sont des choses qui ne marchent évidemment pas, et ça, c'était bien dans votre question. C'est ouvrir l'imagination à d'autres formes de composition. Quand moi j'entends par exemple un merle chanter, et puis que je lis Italo Calvino à propos de Monsieur Palomar, qui dit que peut-être que c'est le silence qui compte dans les chants des merles, d'une certaine façon, nos manières habituelles de penser, de nous organiser, de penser par exemple le territoire, peut être complètement remise en question, non plus comme une évidence, comme quelque chose avec lequel tout était dit, et de se redire, mais tiens, il y avait d'autres manières de faire, il y a des moyens. Et ça, c'est très joli parce que c'est l'utilisation finalement du conditionnel, c'est, il y aurait eu moyen de faire autrement. Et je pense que c'est là où les oiseaux, par exemple, mais comme le rôle de l'anthropologie a été de le faire avec des autres formes culturelles, c'est de dire, tiens, il y aurait eu moyen de faire autrement, et s'il y avait eu moyen de faire autrement, ça veut dire qu'il y a encore moyen de faire autrement. Et c'est ça qui m'intéresse avec les oiseaux, c'est par exemple leur manière de s'organiser en territoire, qui est extrêmement sophistiquée, qui est extrêmement sociale, qui est pas du tout une conception comme nous aurions tendance à penser du territoire comme petit bien à protéger, un lieu d'exclusivité, de droit, et que les oiseaux, en fait, ce qu'ils apportent dans le territoire, selon certains ornithologues, ce serait plutôt la périphérie, c'est-à-dire un lieu d'échange. Et donc, on ne parle plus de frontières, mais de périphérie, on ne parle plus de propriété, mais d'usage des lieux, d'usage partagé, selon certains lieux, ce sera commun, selon d'autres, ce ne le sera pas. Et tout ça, je trouve que ça nous ouvre formidablement bien l'imagination.
Didier Sicard, frontières, périphérie, territoire, sont des termes que vous utilisez en tant que médecin, justement pour réfléchir à cette cohabitation entre espèces végétales, exotiques, espèces animales, qui viennent d'ailleurs aussi, souvent, dans nos propres sociétés.
Mais tout à fait. Mais d'ailleurs, la médecine, on s'intéresse toujours à l'aval, quand la personne est malade, mais les causes, ça paraît toujours un petit peu plus difficile, trop complexe. Et je partage tout à fait ce que vient de dire Vincent Després sur la notion d'interdépendance entre le vivant végétal, le vivant animal, les insectes. Deux exemples. Par exemple, actuellement, les piscines dans le sud de la France, chaque maison a sa piscine dès qu'il y a un niveau de vie correct. Et à ce moment-là, les moustiques commencent à remonter du sud vers le nord et transmettre la dengue. Eh bien, par exemple, l'indifférence totale au réservoir d'eau pendant les saisons sèches fait que les moustiques retrouvent leur capacité de reproduction et au moment de la saison chaude se développent. Donc il y a une espèce d'indifférence en pensant que les moustiques, on aura les insecticides, mais au fond, on s'intéresse pas au transfert des espèces dangereuses de moustiques. De la même façon, sur le végétal, on adore les arbres exotiques, on les fait venir d'Égypte, les palmiers, le buis, etc. Là, il y a des parasites, et au fond, cette indifférence où on considère que la nature, c'est comme ça, on fait son supermarché, on va prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, en ayant un peu l'orgueil que seul l'humain avait la capacité d'avoir le pouvoir et d'être inconscient des rapports de dépendance entre les différentes formes de vivants, et qui effectivement nous retombe dessus. On voit très bien comment la maladie de Lyme, qui a occupé les médias depuis 10 ou 15 ans, est directement liée à la déforestation, parce que c'est les tiques, n'ayant plus de rongeurs à piquer pour se nourrir, ont fini par se réfugier chez les humains. Et au fond, toutes les épidémies, mais je dirais presque 80% des épidémies, c'est la question du rapport animal-homme. Et donc, c'est une question fondamentale et qui n'est pas négligée, mais elle devrait s'insérer dans des relations interdisciplinaires entre les vétérinaires, l'INRA, les laboratoires de biologie. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que Pasteur était, en son temps, un militant de l'interdépendance. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aussi bien aux troupeaux, aux vers à soie, aux laboratoires. Et au fond, la science a fini par se retrancher dans son laboratoire au mépris de ce qui était l'environnement.
Nicolas Gilsoul, tout de même, on parle comme si il y avait une sorte d'unification du monde, mais aussi par exemple d'un espace géographique et culturel comme l'Europe. Or, ce que vous voyez en tant qu'architecte, professeur d'architecture, de paysage, vous intéressant à ces bêtes de ville sur lesquelles vous avez écrit, ce que vous voyez, c'est que même dans un espace géographique très proche, la France, l'Allemagne, la Belgique, on en parlait avec Vinciane Després, eh bien, il y a des regards différents qui se portaient justement sur ces espèces animales, sur la façon dont on doit cohabiter avec elles. Et cela, c'est très intéressant parce que ça convoque des questions culturelles, pourrait-on dire, de rapport justement à cette vie sauvage, par exemple.
Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes la même façon de voir ce monde du vivant, hein, très clairement, et même en France par rapport à la Belgique, si on prend ces deux pays voisins, et si on prend l'exemple du blaireau, le blaireau est une espèce protégée en Belgique et en Angleterre, alors qu'en France, elle est chassée. On sait que ce blaireau, il a un rôle écologique important dans la chaîne.
Il est porteur de maladies aussi.
Alors, il est aussi porteur de la tuberculose des bovins. Donc, il est aussi porteur de maladies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Belgique et en Angleterre, ils ont fait le pari de vacciner les blaireaux et d'en faire un contrôle des naissances pour le laisser se reproduire et jouer son rôle écologique. Alors que chez nous, on le laisse se multiplier et on l'abat, dans des conditions parfois pas évidentes. Ce qui est intéressant, c'est justement de comprendre que la manière dont on va voir ces espèces, ces non-humains, appelons ça comme ça, la manière dont on va les voir et dont on va cohabiter avec elles, va augmenter les chances d'un équilibre de la biodiversité, qui lui est le premier vecteur de régulation de ces virus opportunistes. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on change notre regard par rapport à ces animaux. Et pour changer ce regard, il faut évidemment plus de connaissances scientifiques. On parlait tout à l'heure de Descola. Et Descola lui-même, il se met dans la lignée des hachoirs qu'il a rencontrés dans la forêt d'Amazonie, et où vous demandez à un enfant de 10 ans de nommer le milieu et les espèces qui sont autour de lui, et il connaît 300 espèces d'oiseaux, il sait imiter leur chant, et il sait que quand il y en a un qui vole plus bas ou plus haut, ça veut dire ceci ou cela. Bon, cela. Donc c'est important de connaître ce vivant pour pouvoir agir sur l'urbanisme de nos villes notamment, puisque c'est quand même devenu le milieu principal de l'humanité, de vie de l'humanité.
Vinciane Després, sur ce point, sur ce que vient de développer Nicolas Gilsoul, et sur disons ces réponses différentes de nos sociétés, même si elles sont très proches, eh bien tout compte fait, elles partagent une culture commune, mais pas jusqu'au point d'agir de même manière vis-à-vis de ces espèces animales dites parfois invasives ou dangereuses.
Tout à fait d'accord avec Nicolas, c'est que on verra par exemple la différence entre l'Angleterre et les pays francophones aussi, ou la manière dont les oiseaux sont protégés et ils sont observés, dont les gens connaissent par exemple particulièrement bien les oiseaux, est assez étonnante, quoi. Et ça change beaucoup pour la cohabitation et pour les oiseaux eux-mêmes, puisque en Angleterre, il semblerait que les oiseaux ont de, enfin, Nicolas peut-être me contredira, mais moi ce que j'ai pu lire ces derniers temps, c'est que les oiseaux sont en meilleure forme et sont mieux protégés en Angleterre et sont mieux nourris, puisque les gens veillent à pallier éventuellement aux difficultés qu'ils rencontrent pendant l'hiver. Et tout ça, ce sont donc des modes de cohabitation, mais qui sont aussi en train d'être profondément modifié, parce qu'il y a quelque chose aussi qui apparaît, c'est qu'il y a aussi une autre culture qui est en train de se proposer, où les gens sont de plus en plus curieux. Hein, il suffit de voir le nombre de documentaires animaliers, la façon dont ils sont regardés, tout ce qui circule sur Internet, etc. Où les gens ont de plus en plus envie de... Il y a une curiosité évidente de la part de beaucoup de gens par rapport à ce qui n'est pas humain. Et là, je pense que c'est quelque chose qui, avec dans l'ensemble des choses qui vont mal et dans l'ensemble des choses qui vont à l'encontre de cette possibilité d'avoir une vie en commun un peu convenable et vivable pour tous, il y a des choses qui sont quand même extrêmement réjouissantes.
Vous écoutez Le Temps du Débat, un temps débat consacré à la question de la place de la nature. Laisserons-nous à la nature la place qu'elle a reprise? C'est la question que nous posons ce soir en compagnie de Vinciane Després, philosophe, vous venez de l'entendre, de Nicolas Jussoul, qui est architecte et professeur d'architecture et du paysage, et de Didier Sicard, médecin et membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur au Laos.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Didier Sicard, si nous sommes ensemble, c'est pour débattre de cette question de la place de la nature et de la nécessité ou non de laisser une place à cette nature ou ce qu'on considère comme la nature traditionnellement dans la culture occidentale, dans nos villes. Vous êtes circonspect par rapport à cette question-là. Vous dites pourquoi ne pas faire comme à Berlin, c'est-à-dire avec une ceinture autour des villes, avec des milliers de sangliers et de bêtes sauvages qui sont tout près de la ville. Mais pourquoi faire rentrer la nature dans la ville avec des espèces exotiques? Vous craignez cela, vous?
C'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes. L'un qui est la suppression de la nature au profit du béton, et l'autre qui est le contrôle absolu d'une nature enfermée un petit peu comme un Lego au sein du béton, avec un mépris total de la biodiversité. Ce dont je suis conscient, c'est que les Allemands, peut-être, sont en Europe ceux qui ont, avec la ceinture verte qui est 1300 km sur l'ancienne frontière République démocratique allemande, République fédérale, sur 400 mètres, a permis à la nature de retrouver sa liberté. Le problème, c'est que la biodiversité, c'est pas une biodiversité contrôlée. On n'est pas là pour saupoudrer un peu de biodiversité. La biodiversité, c'est le respect et la connaissance. C'est au fond comprendre ce que disaient Vinciane et Nicolas Jussoul, comprendre les interdépendances. Et c'est pas simplement de faire de la prédation qui se voudrait intelligente, qui se voudrait contrôlée. Au fond, la nature, elle est porteuse, non pas d'une finalité bonne ou mauvaise, elle est elle nous met en situation d'humilité et de nécessité de comprendre ces interdépendances. On parlait tout à l'heure des blaireaux, mais il y a plein d'interdépendances qui font que, de temps en temps, la nature nous met en danger, de temps en temps, c'est nous qui la mettons en danger. Donc, il faut que les spécialistes, aussi bien des forêts, des spécialistes des virus, finissent par se parler et de ne pas être simplement dans une vision un peu superficielle, un peu méprisante. Et moi, je suis frappé de voir comment une nature à qui on confie le soin d'auto-organiser avec éventuellement des contrôles quand elle est dangereuse, dans telle prolifération, les sangliers avec la trichine, mais d'arriver à ce qu'elle ne soit pas à notre service, mais lui laisser, au fond, sa liberté. Et moi, je suis frappé de voir que la France a toujours été un pays dont la rationalité voulait que la nature s'adapte à l'esthétique des villes, et non pas... Et comme dans d'autres pays, le pays anglo-saxon, où la liberté était prioritaire au détriment, quelquefois, d'une esthétique. C'est le problème du jardin anglais, du jardin français. C'est-à-dire vraiment une espèce de vision culturelle radicalement différente. Il faut que la nature, dans nos pays en France, soit non seulement contrôlée, mais qu'elle s'adapte à nos vœux. Et non, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui... me paraît de nature à repenser, mais c'est pas forcément à l'occasion du confinement ou du déconfinement que les choses vont changer, mais au moins elle nous fera prendre conscience à l'occasion d'épidémies que, à partir du moment où la quasi-totalité des maladies émergentes sont liées aux animaux et peut-être dans certaines situations aux plantes, on pourrait imaginer qu'il y ait une réflexion en profondeur qui commence.
Oui, Nicolas Gilsoul, d'ailleurs, en tant qu'architecte et professeur à Paris-Malaquais, justement, d'architecture, du paysage, d'urbanisme, c'est des questions qui vous intéressent, ce sont des questions qui vous intéressent au premier chef, pourrait-on dire. Le rôle de remodelage de nos villes après une crise comme celle-ci va être un rôle essentiel. Et on peut espérer que le politique s'en empare et y réfléchisse grandement. On sait par exemple que peut-être des immeubles avec balcon, ça serait mieux en cas de futur confinement que des immeubles sans balcon. Ça, c'est un détail, mais plus largement sur la question de l'urbanisme, c'est une question qui se pose.
On se rend compte qu'on a ce besoin de nature en ville, ça on le savait déjà avant. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette grande révolution dont on a parlé jusqu'ici, qui est cette révolution de conception même de la ville. Je vais prendre trois exemples pour être très concret. Nos aéroports sont entourés de grandes plaines, de steppes, d'herbes, parce que les pilotes doivent avoir la visibilité sur les indications qui sont le long. Donc on peut pas avoir une jungle, ok, ça on le sait. On sait aussi que ces zones d'herbe vont attirer tout un tas d'insectes qui vont attirer tout un tas d'oiseaux. Et donc on a des problèmes de cohabitation, par exemple aux États-Unis, entre ces grosses bernaches, c'est des oies hein, qui font à peu près 7 kilos, 1,85 m quand elles étendent les ailes, et les avions de ligne. C'est 10 tonnes de choc au démarrage entre une oie et un avion. Donc c'est, il y a 50 cas d'accidents par an aux États-Unis. Cette cohabitation, 4 millions d'oies aux USA, 5 000 à Denver au Colorado, est importante. Donc on est en train de repenser depuis quelques années les paysages autour des aéroports bien plus intelligemment que ce qu'on faisait encore avant, qui était des effaroucheurs. On fait peur aux oiseaux pour les dégager un peu plus loin, ça existe encore un peu. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le paysage. On sait que, par exemple, si on a un mélange d'herbes, un jardin en réalité, qui est coupé à une vingtaine de centimètres de haut, eh bien on n'a plus de goélands, on n'a plus de mouettes. Si vous la laissez pousser jusqu'à 60 centimètres, ce sont les bernaches, les étourneaux ou les mouettrieuses que vous dégagez. Si vous la descendez à 15 cm, c'est le bruant des neiges, c'est l'hirondelle, c'est le pigeon biset. Et si vous le redescendez, le remontez à 75 cm, ce sont les canards. Et donc, en fonction des lieux, en fonction des couloirs migratoires et en fonction des espèces avec lesquelles on peut ou non cohabiter, on va pouvoir transformer ce paysage, non pas pour des critères esthétiques, mais pour des critères du vivant comportemental. Premier exemple. Deuxième exemple, le Sao Paulo. Sao Paulo est une ville qui s'est constituée sur un immense nid de scorpions. Et ces scorpions ont grandi, évolué, multiplié. Rien ne peut les anéantir chimiquement, même une bombe nucléaire ne en vient pas à bout. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, la hausse de la température, la mauvaise gestion des poubelles de la ville, etc., on se retrouve avec une augmentation phénoménale des piqûres, fois 100 en moins de 10 ans. Donc c'est quand même assez énorme, ce sont des piqûres qui sont mortelles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, une solution très simple est de tisser dans la ville de Sao Paulo un réseau, un système de parcs et de jardins qui ne sont pas pensés comme des parcs et des jardins pour des critères à nos yeux esthétiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais qui sont des critères de milieu écologiquement viable et dans lequel on pourrait retrouver des toucans, on pourrait retrouver certains types de petits singes qui, eux, savent comment se débarrasser des scorpions et donc réguler la population des scorpions. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on peut mettre en place chez nous, beaucoup plus proches, et vous le disiez, Didier, tout à l'heure, il y a la question des moustiques. Le moustique tigre, avant de s'inquiéter de la proximité d'un renard ou d'un sanglier, parce que c'est gros, parce qu'on le voit, et parce que c'est sauvage, et parce que dans notre imaginaire, le sanglier, c'est la bête noire, c'est le truc depuis le Moyen-Âge, il faut l'abattre, etc. Mais le moustique, il est tout petit, il passe inaperçu, mais le moustique tigre, il est dans la majorité de nos départements français, et il transporte quand même trois fléaux, Zika, Chikungunya et la dengue. Donc c'est, voilà. Et ces moustiques tigres, ils sont attirés effectivement dans le sud par ces réservoirs d'eau, mal gérés ou gérés d'une certaine façon, mais avec la multiplication sur nos balcons et sur nos terrasses, et ça nous fait du bien d'avoir des plantes. Quand on a la chance d'avoir un appui de fenêtre, on a tous une petite jardinière avec une petite tomate, un machin. Mais la multiplication des assiettes sous ces pots va faire une eau stagnante dans laquelle c'est la nurserie des moustiques, quoi. Donc, si on n'a pas mis en place, à côté de ça, des nous plantés dans lesquels vous avez des grenouilles, des tritons, toute une série de bestioles qui vont bouffer les moustiques, eh ben vous déséquilibrez le système et là, vous vous retrouvez avec des problématiques.
Vinciane Després, cette question est extrêmement importante. On a vu la tribune publiée dans Le Monde par Nicolas Hulot, mais également par tout un tas de personnalités à la fois du showbiz et d'écologistes, pensant effectivement qu'il semblait inenvisageable de revenir à la normale. Vous dites vous-même d'ailleurs, Vinciane Després, qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc on voit bien qu'il y a un moment de pause comme celui-ci. C'est un moment où on réfléchit, mais néanmoins, sur cet avenir de cohabitation entre les espèces végétales, espèces animales et l'espèce humaine, il y a des options qui sont différentes. Vous pointez du doigt le fait que chez les écologistes eux-mêmes, eh bien, il y a ceux qui pensent effectivement que cette question du milieu est importante, c'est-à-dire de nous penser au milieu des autres espèces, et que d'autres pensent qu'il faut avoir une wilderness, c'est-à-dire une nature totalement protéger les hommes et séparer d'eux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Vinciane Després?
Alors, ce sont deux conceptions qui vont être difficilement compatibles, mais pourraient éventuellement, mais ça veut dire... alors, moi, personnellement, quand j'entends Nicolas Gilsoul évoquer tous ces cas de figure, qu'est-ce qu'on voit, mais ce sont des cas de diplomatie à chaque fois, c'est vraiment des œuvres de diplomatie. Comment est-ce qu'on va être diplomate avec les moustiques, puisqu'on peut pas s'en débarrasser, ou en tout cas, ça demanderait de tels sacrifices, de ne pas les voir proliférer. Avec qui est-ce qu'on va s'associer? On va s'associer avec les grenouilles, on va s'associer éventuellement avec des sables dans les soucoupes, on va s'associer avec quantité d'êtres. J'ai l'impression que c'est la wilderness limite en quelque sorte la possibilité de ces associations. C'est un peu comme si on allait créer de nouveau deux mondes séparés et revenir finalement à une conception de la nature qui est l'ancienne traditionnelle. L'ancienne conception de la nature traditionnelle, c'est-à-dire d'un milieu préservé des êtres humains dans lesquels deviendrait intouchable et qui existerait comme une espèce de valeur sacrée en soi. Mais c'est pas évident
de vivre avec une valeur sacrée. Ce sont les grands parcs américains qui sont nés avec cette idée-là à la fin du 19e siècle, par exemple.
Et qui correspondent tout à fait, en effet, aux rêves qui conduisaient la conquête et la colonisation, ces rêves de grands espaces sauvages, etc. Alors que je pense que si un monde doit devenir envisageable, c'est un monde qui sera un monde où on essaiera de composer le mieux possible, en sachant qu'il y aura des accrocs, qu'il y aura des frictions, que ce ne sera pas un monde ni idyllique, ni un paradis terrestre, mais que ce sera un monde où on apprendra à négocier, où on apprendra des bricolages, parce que ce sont des bon bricolage, ça veut savoir la hauteur de l'herbe, qui on va accueillir, qui on a envie d'avoir, qui serait mis en danger, etc. Et je trouve que ça, c'est un monde passionnant quand il est décrit comme ça.
Didier Sicard, dans sa tribune dans Le Monde, Nicolas Hulot nous dit qu'il faut effectivement, qu'il ne faudrait pas rentrer dans une vision où il faudrait faire des procès de ce qui s'est passé auparavant, etc., mais regarder vers le futur. Vous pensez tout de même que sur ces questions qui sont liées à la cohabitation et aux actions des hommes sur la nature, en particulier à propos du cas chinois, vous pensez qu'il faudrait, vous l'avez dit sur le site de France Culture d'ailleurs, une sorte de tribunal sanitaire international pour juger les trafics d'animaux qui continuent alors qu'ils devraient être interdits et qu'ils sont interdits dans les conventions internationales?
Oui, c'est un peu utopique parce que au fond, le trafic d'animaux sauvages, il est à peu près voisin du trafic de drogue et que les Nations Unies ont renoncé à édicter des éradications du trafic de drogue. Donc c'est peut-être un vœu pieux de pouvoir éradiquer, mais au moins qu'il y ait un sentiment général que le trafic d'animaux sauvages est un trafic criminel et non pas un trafic accessoire qui fait rire tout le monde quand on trouve un python dans une valise. C'est-à-dire, au fond, considérer que c'est une forme dramatique des échanges humains. Mais au fond, le problème qui m'intéresse le plus, c'est toujours l'interdépendance. Il y a une question que je me pose, et j'ai posé la question hier au service de l'eau de la ville de Paris. Nous avons des tonnes de gel hydroalcoolique qui sont déversés quotidiennement dans nos lavabos, dans nos... Et la nature, elle est aussi le monde microbien. Et le monde microbien, il reçoit sur la tête des centaines, des milliers de tonnes de gel hydroalcoolique qui vont modifier l'écologie bactérienne et qui vont être à l'origine, peut-être, de modifications du sous-sol. Et on va se trouver avec des changements radicaux de l'écologie bactérienne. Parce que on a l'impression que c'est de l'eau, mais c'est quand même des produits antiseptiques. Et donc, peut-être que la nature elle-même, elle va réagir à cet afflux. Je n'ai aucune Je n'ai pas de certitude, mais je me pose la question simplement de... Ouais. Il y a toujours un maléfice derrière un bénéfice. Et donc, toujours, on a l'impression que l'humain est toujours en situation de contrôle, alors qu'en vrai, il devrait être en situation d'incertitude, de tâtonnement et de réfléchir au coup d'après plutôt qu'au coup d'avant.
Oui, Nicolas Gilsoul, en tant qu'urbaniste et architecte, vous devez réfléchir globalement justement à ces interactions qui sont au cœur de la réflexion du médecin Didier Sicard. C'est-à-dire, évidemment, on sait très bien qu'une action bénéfique, comme le disait Didier Sicard, peut avoir des conséquences néfastes quelques années plus tard, parce que simplement elle aurait été massivement exploitée par chacun et chacune d'entre nous.
Bien sûr, je pense, pour prendre une image que j'utilise avec mes étudiants souvent, un architecte, quand il construit quelque chose ou quand il construit un morceau de ville, c'est exactement de la même façon que quand vous posez une pierre dans le cours d'une rivière. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des sables qui vont bouger avec les courants, vous allez avoir un effet d'érosion d'un côté, un effet de sédimentation de l'autre. Au bout de quelques temps, vous allez avoir une île qui va se constituer. Sur cette île va venir se poser des graines et s'ancrer des graines de plantes qui vont reconquérir la micro-île. Ces plantes vont fleurir, vont attirer des insectes qui elles-mêmes vont attirer des oiseaux et puis toute une faune, une flore. Et à terme, cette île va dévier le cours de la rivière. Donc chaque action va avoir énormément de conséquences. Il y a une petite histoire, je ne sais pas si je vais vous la raconter quand même, parce qu'elle est importante. C'est l'histoire d'un papillon bleu qui peuplait nos campagnes anglaises il y a encore quelques années. Il s'appelle l'azuréé, et ce papillon a quasiment disparu des campagnes anglaises aujourd'hui. On s'est demandé pourquoi, les scientifiques se sont interrogés. Ce papillon ne pondait ses œufs que dans le serpolet, qui a des petites feuilles un peu triangulaires, un peu coriaces. On s'est rendu compte que le serpolet avait disparu des campagnes anglaises. Pourquoi ? Parce que l'économie agricole avait changé, pastorale avait changé, et donc les moutons ne broutant plus l'herbe et les prairies, le serpolet avait été étouffé par des herbes plus hautes. Donc on a ramené le serpolet et on a ramené des papillons qui venaient de Suède. On a regardé ce que ça donnait. On s'est rendu compte qu'en fait, bon, la première année ok, la deuxième année il y en avait, puis après il n'y en avait plus. On s'est dit pourquoi ? En fait, on s'est rendu compte que le papillon pond des œufs ronds et blancs tout petits qui vont grandir, et à un moment donné ils sont trop grands sur la feuille du serpolet. Pour ça qu'il choisit le serpolet. L'œuf glisse, tombe par terre, et à ce moment-là, pour survivre, il doit être pris en charge par une fourmi, une alliée. Cette fourmi va l'amener dans la fourmilière et va la nourrir comme une future reine. Alors on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il la nourrit comme une future reine et pas comme une ouvrière? Donc ils ont mis un micro sur l'œuf et se sont rendus compte que l'œuf de la future reine fourmi, qui ressemble beaucoup à celui du papillon, de la future reine, donc faisait bzzz, alors que l'œuf de la future ouvrière faisait bzzz. Donc en fait, l'œuf du papillon sonnait exactement de la manière d'une reine. Et donc la fourmi le nourrissait comme une reine, le papillon se développait, et il arrivait à grandir. Génial. Donc ils ont ramené des fourmis. Ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de fourmis? Ils ont ramené des fourmis, et ils ont dû couper l'herbe beaucoup plus court, parce qu'en fait, les fourmis n'arrivaient plus à passer, parce que l'herbe avait poussé. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce que cette herbe a poussé? Pourquoi cette herbe-là a poussé de manière aussi dense? Et c'est là que ça devient dingue, c'est que, pourquoi est-ce que l'herbe a poussé de manière aussi dense? Parce que les lapins ont disparu d'Angleterre. Et pourquoi les lapins ont disparu d'Angleterre? Parce qu'un professeur de l'Académie, alors c'est la légende, on sait pas, mais la légende raconte qu'un professeur de l'Académie de médecine française, qui avait un grand jardin qui était envahi par les lapins, en a eu marre, et piqué un des lapins avec la myxomatose qui était dans ses étagères. Le lapin s'est fait la malle, il est sorti du jardin, il a conquéri le monde, et le papillon bleu a disparu. Donc ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que c'est vraiment une chaîne de commandement énorme dans laquelle chacun des alliés, pas uniquement l'homme, a une action.
Vincent Després, pour conclure, quand des articles paraissent, comme dans Télérama cette semaine, sur cette question de la nature revenue dans nos villes, etc., et du nouveau regard qu'on peut porter sur elle, beaucoup des spécialistes du muséum sont plus pessimistes que vous l'avez été pendant cette émission, et disent qu'ils craignent le retour de bâton. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'une fois tout cela terminé, et c'était ce que disait par exemple... dans Reporter, je crois que c'était Romain Julliard du Muséum à Paris, il disait, il se peut qu'avec le déconfinement, les gens préfèrent foncer dans le mur plutôt que de remettre en cause leur mode de vie de manière si importante comme ils l'ont compris pendant le confinement.
Alors, je pense qu'il y a deux devenirs possibles à cette prédiction-là. D'abord, se dire que les prédictions, elles risquent d'affecter ce qui va devenir, puisque on pourrait s'y fier, elles pourraient jouer le rôle d'une certaine manière d'autoréalisation. Que les mises en garde, je trouve que les mises en garde sont extrêmement intéressantes. Et je pense par exemple à Bruno Latour qui parlait des gestes barrières par rapport non seulement au virus, mais aussi par rapport au fait de revenir à ce qui était une situation finalement anormale. Et ça, c'est un premier point. Mais l'autre point, c'est de se dire comment est-ce qu'on va aussi soutenir tout ce qui s'est passé pendant cette période de confinement et qui pourrait donner aux gens envie de ne pas revenir à ce qui était une situation dont on se rend compte qu'elle était finalement pas si normale que ça. Que le fait qu'on ait entendu les oiseaux chanter, le fait que les gens, pour certains d'entre eux, et pas tous malheureusement, que certains se sont dit mais on vivait une vie de fou, on n'avait pas le temps, on voyait plus nos enfants, bref, que cette situation puisse donner enfin du courage et de l'appétit pour essayer d'imaginer d'autres façons de faire et de ne pas se lancer dans cette course effrénée qu'on va nous demander de reprendre parce qu'on va nous dire il faut rattraper le retard, il faut remettre le commerce et l'économie, etc. Et donc, j'ai envie à la fois d'entendre bien les mises en garde, mais les considérer comme des gestes barrières en disant voilà ce qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants, et ce sera encore pire qu'avant, mais aussi de soutenir tout ce qui se crée pour le moment d'imagination, de joie parfois, de tristesse évidemment, mais tout ce que cette crise aussi nous apprend que nous n'avions pas vu.
Merci beaucoup Vinciane Després. Je rappelle que vous êtes philosophe et que vous avez publié chez Actes Sud « Habiter en oiseau ». Quant à vous, Nicolas Gilsoul, vous êtes architecte et vous avez publié « Bêtes de ville » chez Fayard, c'était l'année dernière. Merci à vous Didier Sica, en tant que médecin et membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur au Laos et ancien président du comité consultatif national d'éthique. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe, Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Bay, Hugo Boursier, Manon Prissé qui prépare avec moi ces émissions, qui continuent d'ailleurs de nourrir chaque jour la conversation mondiale en publiant des textes d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes, et le vôtre a été publié sur notre site Vinciane Després, merci beaucoup, des artistes du monde entier sur le site de France Culture. Je vous conseille par exemple cette semaine les textes des féministes américaines John Tronto ou encore polonaise Agnieszka Żuk, et également le travail qui a été remis par le philosophe italien Roberto Beneducce sur la question de la mémoire. Comment garderons-nous la mémoire de ce que nous venons de vivre? Merci également pour cette émission enregistrée chacun chez soi à Jean-Marc Loos, Christian-Denis Lecèvre et Marie-Christine Vesely. À la technique aujourd'hui à la Maison de la Radio, gardant donc la possibilité que nous dialoguions tous ensemble, Nasser Moussaoui. À la réalisation depuis la Bretagne où il vit, Alexandre Manzanares. Demain, le temps du débat s'intéressera au rôle de l'Europe dans cette crise.